Vous êtes sur RTL.
RTL Matin,
Yves Calvi.
7h44, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Elisabeth Martichoux, vous recevez donc ce matin le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin.
Et merci beaucoup à vous, Gérald Darmanin, d'être ce matin sur RTL. Et bonjour.
Bonjour.
Un mot d'abord, si vous le permettez, du report de la réforme du calcul des APL. Report au 1er janvier 2020, annoncé par Matignon mardi. C'est une mauvaise nouvelle pour vous qui espériez des économies dès septembre ? Grâce à cette réforme ?
Non, parce que cette réforme n'est pas une réforme budgétaire. Elle n'a pas visé, comme je l'ai lu dans la presse parfois rapidement, à baisser les APL de nos concitoyens. Elle a visé de les rendre plus justes, ces APL. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous touchez vos APL, votre aide au logement, bien après avoir eu besoin de ces APL. Et parfois, vous les touchez encore et vous n'en avez plus besoin. Je m'explique. Comme c'est selon votre déclaration de revenus, lorsqu'il n'y avait pas l'impôt à la source, vous deviez attendre le moment où les impôts constataient vos revenus et qu'à partir d'un certain niveau de revenus, notamment lorsque vous êtes très touché socialement, vous avez des aides au logement. Mmh. Moi, j'ai été étudiant et il m'est arrivé, comme beaucoup d'étudiants sans le sou ou modestes, de toucher mes APL 6 mois après être entré chez le propriétaire chez qui je louais l'appartement pour mes études. Et puis, il y a des gens qui sont aujourd'hui cadres, qui sont sortis du niveau des études, qui touchent 3 000, 3 500 euros et qui continuent à toucher des APL alors qu'ils ne devraient pas le faire. Il y a un décalage. Et rendre contemporain le versement des prestations sociales, en l'occurrence, rendre contemporain le versement des APL, c'est une belle réforme de justice sociale. Alors on aurait dû la mettre en place au 1er septembre. Je crois que pour plein de raisons, on n'a pas pu le faire, notamment parce que la CNAF, celle qui s'occupe des CAF, a dû faire la prime d'activité au début d'année suite aux annonces du président de la République. C'est reporté au 1er janvier.
Mais pour des raisons techniques, dites-nous.
C'est ce que j'ai compris du ministère du Logement, de la CNAF et du Premier ministre.
Mais néanmoins, si vous êtes honnête, et vous êtes honnête, c'est aussi une mesure d'économie. Puisqu'on dit, alors, vous pouvez le démentir, mais on dit que ça ferait quand même en vitesse de croissance économiser plus d'un milliard au gouvernement.
Ce n'est pas une mesure d'économie, puisque le jour où il y aura une crise économique, le jour où il y aura plus de gens au chômage, le jour où il y aura plus de difficultés sociales, automatiquement cela va augmenter. Là aujourd'hui, on verse moins d'APL aujourd'hui, parce que si on devait verser les APL de façon contemporaine, comme on dit, parce qu'il y a moins de chômage, le pouvoir d'achat des Français augmente et il y a plus de gens qui sortent de la prestation des APL.
Et quand la CAF dit que ça va faire sortir 600 000 personnes du système, vous dites que ça peut en faire entrer autant ? Enfin, ce serait ça l'idée
de l'équilibre. Tout dépend du moment où vous versez la prime des APL. Ça fera sortir des gens qui ne devraient pas toucher les APL aujourd'hui et qui les touchent. Et aujourd'hui, il y a des gens qui devraient toucher les APL. Il y a des étudiants en septembre qui sont enfants d'ouvriers et qui ne vont pas toucher leurs APL parce que l'État n'a pas été capable depuis très longtemps de rendre contemporain le versement des prestations sociales. Donc il ne me paraît pas normal que le cadre continue à toucher les APL alors qu'il est manifestement, il a les moyens de son logement et que l'enfant d'ouvrier, il va attendre 6 mois. Il va peut-être prendre des crédits à la consommation. Il va peut-être faire des petits boulots chez McDo alors que l'État devrait lui verser les prestations auxquelles il a le droit.
C'est politiquement un sujet sensible, les APL, depuis un certain mois de juillet 2017 quand avait été baissé de 5 euros. Ça ne touche pas aux APL,
Mais ça n'a rien à voir. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui en parlent des APL. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup dans les commentaires politiques qui les aient touchés. Encore une fois, moi j'étais étudiant et j'ai touché les prestations sociales que l'État veut bien mettre en place. Et elles sont très importantes, ces prestations sociales, à condition que ceux qui doivent les toucher les touchent et que ceux qui ne doivent plus les toucher ne les touchent pas. C'est du bon sens, mais manifestement, on a du mal à le mettre en place. On le mettra en place pour le 1er janvier.
On a du mal, mais ce sera fait en janvier 2020.
Exactement.
Gérald Darmanin, la justice fiscale, c'est aussi la lutte contre la fraude fiscale. Vous nous dites que vous passez la vitesse supérieure, vous accélérez avec une nouvelle police fiscale que vous avez installée à Bercy. Qu'est-ce qu'elle pourra faire qui était impossible jusque-là ?
Elle pourra faire des perquisitions fiscales, saisir les avoirs qu'elle trouve. Par exemple, si un contrôleur fiscal qui fait une perquisition fiscale constate qu'il y a 2 millions en liquide qui ne sont pas déclarés, il les déclare sur le compte-rendu, mais jusqu'à présent, il ne pouvait pas les saisir.
C'est-à-dire qu'il y avait des millions identifiés et pas saisissables.
Exactement, on les mettait sur le compte-rendu du procès-verbal, mais on ne pouvait pas les saisir. Maintenant, cette police fiscale pourra évidemment les saisir, pourra les géolocaliser. Vous savez que l'une des grandes raisons de la fraude fiscale, c'est de savoir si vous habitez ou pas en France. Le fait de pouvoir vous géolocaliser, parce que évidemment, sous le contrôle d'un juge, bien évidemment, ça permettra de savoir si vous êtes vraiment résident fiscal en France, si vous faites vraiment les bons allers-retours qu'il le faut. Vous mettre sur écoute téléphonique, évidemment toujours sous l'autorisation d'un juge. Bon, ce qui est important, évidemment, c'est de connaître une police fiscale qui s'intéresse aux gros fraudeurs, à ceux qui mettent des centaines de millions d'euros, parfois des milliards, en dehors de ce qu'ils devraient payer au fisc français.
Donc ce seront des agents des impôts qui auront des pouvoirs de police et d'enquête comme certains flics aujourd'hui.
Ou comme
d'ailleurs, ils seront armés.
Ou comme les douaniers, exactement. Comme les douaniers, ils seront sous l'autorité d'un magistrat, en l'occurrence d'une magistrate. Ce n'est pas le ministre des Comptes publics qui donne des instructions. C'est bien un procureur, le parquet national financier ou les procureurs de la République qui saisiront, s'ils le souhaitent, ce service, comme il y a la BNRDF, comme il y a le service des enquêtes douanières, comme il y a la police judiciaire. Il y a un nouveau service qui est à disposition de la justice et qui aura surtout l'arme de la spécificité. Vous savez, la fraude fiscale, c'est compliqué. La fiscalité, c'est compliqué. Et aujourd'hui, les voleurs sont plus ingénieux que les policiers, ou les gendarmes, ou les douaniers. Parce que, bah, simplement, il faut être très technicien pour repérer des grands montages frauduleux. On convoit parfois 2-3 ans après dans des grands journaux en disant qu'il y a eu des fraudes et l'État ne l'a pas vu.
Finalement, vous allez les traiter comme dans le grand banditisme, on poursuit...
Ah bah, la grande fraude fiscale, c'est du grand banditisme. Ouais. D'ailleurs, vous savez, le lien est assez fort entre ceux qui fraudent...
Il n'y a pas les mêmes moyens.
Mais ceux qui fraudent fiscalement, non seulement ils volent le contribuable, bien sûr, ils rendent le déficit public plus important, mais parfois ils financent ce proxénétisme, le terrorisme, et les stupéfiants. Tout cela est souvent lié.
Gérald Darmanin, hypothèse d'école, est-ce que le magot suisse qu'on découvre avec stupeur avoir été celui de Raymond Barre, on l'a découvert dans le Canard enchaîné d'hier, est-ce que ce magot suisse aurait été découvert plus tôt grâce à cette police fiscale?
Bon, d'abord, le ministre des Comptes publics, de manière générale, ne parle jamais des cas particuliers. Il a tenu au secret fiscal. Ce qui est certain, c'est que désormais, nous avons des échanges de données avec beaucoup de pays, dont la Suisse. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense que les situations qui pourraient être un compte à l'étranger, notamment en Suisse, qui ne seraient pas déclarées, me paraît désormais très improbable. D'ailleurs, vous avez vu que les avoirs, c'est plus de 40% de comptes à étrangers non déclarés qui ont baissé, suite notamment aux échanges de données automatiques entre les banques. Le directeur général des finances publiques est d'ailleurs allé il y a 15 jours en Suisse pour vérifier que tout se passait bien entre les banques françaises et le fisc français, et que désormais, les échanges de données entre banques, les conventions fiscales entre banques, c'est moi qui ai mis fin, si j'ose dire, à cette impunité, puisque j'ai terminé la convention qu'avait lancé mon prédécesseur, ne permettrait plus d'avoir ce genre de cas.
Mais ça vous a surpris, cela dit. Ancien Premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing, ancien candidat à la présidentielle, ancien maire de Lyon.
Quand on est ministre...
6,7 millions cachés en Suisse.
Quand on est ministre des Comptes publics, d'une part, on ne parle pas du cas particulier de chacun et on est de moins en moins surpris. Voilà.
De moins en moins surpris. Donc, j'entends bien que vous nous disiez que vous ne parlez pas d'un cas, mais s'agissant de la figure tutélaire, le meilleur économiste de France... Vous dites quoi? Est-ce que passé, c'est le passé, après tout?
Non, je ne dis pas ça.
Ou est-ce que vous dites qu'il y a un sentiment d'impunité quand même qui régnait et qui continue de régner d'ailleurs?
Je ne crois pas que ce sentiment...
Qui est franco-français?
Non, je ne crois pas du tout que ce sentiment d'impunité continue de régner. J'ai été ministre à la demande du président de la République qui a mis fin au verrou de Bercy. D'ailleurs, je lis un grand journal ce matin que des milieux d'affaires auraient peur. Il n'y a pas de peur à avoir.
Vous donnez une définition de mot du verrou de Bercy.
Oui, excusez-moi, effectivement. Enfin, je pense que beaucoup de gens qui s'intéressent à la fraude le savent, mais je vais quand même préciser. Jusqu'à présent, il était interdit que, sans l'avis du ministre, en tout cas sans l'avis de son administration, les dossiers de fraude fiscale soient transmis à la justice. Il n'y avait pas d'automaticité de transmettre à la justice. L'administration fiscale récupérait l'argent. Bien sûr, elle n'était pas faible, mais elle ne transmettait pas la justice pour des condamnations pénales, et notamment de prison. Aujourd'hui, quand vous fraudez fiscalement, vous pouvez à la fois rendre l'argent, et rendre l'argent avec beaucoup d'intérêt, mais aussi aller en prison. Ça, c'est une grande différence depuis un an. Ce n'était pas le cas jusqu'à présent.
Ce n'est pas aussi une façon de lutter contre un sentiment d'impunité?
Mais si, justement, c'était de montrer à nos concitoyens...
Il existe ce sentiment d'impunité.
Bah, je pense qu'une partie de nos concitoyens considèrent qu'on ne travaille pas assez contre la fraude fiscale. Ça me paraît totalement évident. Et peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que la police fiscale que nous mettons en place, la fin du verrou de Bercy, l'augmentation de 10% des contrôles, notamment pour les grands fraudeurs, le fait que nous allons désormais, et vous avez vu, parfois ils ont eux-mêmes sorti le secret fiscal, de grandes entreprises du numérique payent des centaines de millions d'euros désormais d'amende au fisc français pour plusieurs grandes entreprises numériques, à la demande du président de la République, nous avons été extrêmement fermes. Vous avez vu qu'il y a certaines affaires qui sont dans la presse, je pense à UBS, même si elles ne sont pas totalement terminées. Ce sont des milliards d'euros que le fisc français peut récupérer. Effectivement, nous souhaitons mettre fin au sentiment d'impunité qui n'existe plus. Il n'y a plus d'impunité pour les fraudeurs fiscaux, ne serait-ce que l'échange des données et l'intelligence artificielle et les moyens de la lutte contre la fraude nous est donné.
Donc vous nous avez dit, rien ne me surprend, donc ça ne vous a pas surpris.
Non, j'ai dit que j'étais de moins en moins surpris.
De moins en moins surpris. Ça ne veut pas dire que vous ne l'avez pas été, vous l'avez été quand
Mais
même.
Encore une fois, je pense que ce qui est très important, c'est qu'à la fois il faut lutter contre la fraude fiscale et ne pas rentrer dans les cas particuliers que la justice doit traiter. Le ministre des Impôts, il doit respecter le secret fiscal de chacune et de chacun d'entre vous. Cependant, dès qu'il y a un cas qui est révélé par la presse, dès qu'il y a quelque chose qui semble être une dénonciation,
et
nous la vérifions.
Sérieusement l'exemplarité.
Et il faut faire attention. Faisons attention à la rumeur et la justice
par
tranchera.
Tous ceux qui nous gouvernent. La lutte contre la fraude, très vite, c'est aussi la chasse de la contrebande de tabac. Et aujourd'hui, vous avez des résultats qui sont importants. En quelques mots.
Tout à fait. Je vais me rendre dans quelques instants à Roissy. Au 1er juillet de cette année, nous avons saisi plus de 200 tonnes de tabac, c'est-à-dire l'équivalent de 7 terrains de football où on mettrait des paquets de cigarettes les uns après les autres. l'année dernière, pour toute l'année 2018, on a saisi 100 tonnes. C'est-à-dire qu'au 1er juillet de cette année, on a saisi deux fois plus.
Ça fait une hausse de combien
que l'année dernière. C'est plus de 130% de saisie de tabac. On le doit aux buralistes. Qui font un travail très important et qui ont le monopole seul de la vente du tabac, ont le droit aux Français. 80 000 de nos compatriotes meurent chaque année, évidemment, du tabac. Et ce trafic de tabac, à la fois le trafic de frontières, le trafic par la poste ou par DHL, par Internet, ou la contrefaçon de tabac, c'est très très mauvais, bien sûr, pour la santé. Et c'est du vol fiscal. Et donc, depuis un an et demi, nous avons mis en une des priorités de la douane de lutter contre le trafic de tabac. Cette priorité paye.
Donc, plus 130% de saisie au premier semestre par rapport au semestre 2018.
Par rapport à toute l'année
2018, c'est ce que vous nous dites ce matin. Vous allez féliciter les douaniers, j'imagine, dans quelques heures. Un petit mot encore, deux questions. D'abord, votre avis sur l'homéopathie, Gérald Darmanin. La Haute Autorité de Santé a établi l'inefficacité thérapeutique des granules, recommande la fin du remboursement. On attend la décision de votre collègue Agnès Buzyn. Sa main ne doit pas trembler, elle doit annoncer, selon vous, le déremboursement rapide.
Moi, je ne suis pas ministre de la Santé, mais je fais les comptes sociaux avec la ministre de la Santé et des Solidarités. S'il y a une autre autorité de santé, s'il y a des scientifiques qui regardent si les médicaments sont bons ou sont pas bons, il faut suivre cette haute autorité de santé. La haute autorité de santé a dit que l'homéopathie ne devait pas être remboursée. Je rappelle que c'est à peu près pour 7 millions de Français 18 euros de remboursement par an. Donc on n'est pas sur des montants absolument énormes, on est juste peut-être sur un principe qui est le principe à quoi sert la sécurité sociale, c'est à rembourser des médicaments.
Il y a des enjeux d'emploi, Sibeth Ndiaye, porte-parole l'a dit, votre ami Xavier Bertrand qui a un laboratoire Boiron, comme Gérard Collomb d'ailleurs, beaucoup plus d'ailleurs, dans la région Rhône, le dit, il y a des enjeux d'emploi, il faut faire attention, il faut toucher ça, il ne faut pas braquer l'opinion aussi.
Il me semble que la question est une question de santé publique, il me semble que ce n'est pas l'interdiction de l'homéopathie, mais son déremboursement, ce qui est assez différent. Et je serais évidemment solidaire de la décision de la ministre de la Santé, mais il me semble que s'il y a une autre autorité de santé, c'est poursuivre ses avis.
Et donc vous êtes pour l'avis que le gouvernement suive l'avis de la vie.
Voilà, je suis pour l'avis d'Agnès Buzyn.
Alors, pour vous projeter, une dernière question, Gérald Darmanin, vous projetez jusqu'à quand au ministère du Budget?
Jusqu'à ce que le président de la République et le Premier ministre me fassent confiance.
Il y a une règle qui a été dictée, précisée par le Premier ministre cette semaine. Vous l'avez bien entendu, j'imagine. Si vous êtes tête de liste, par exemple, à Tourcoing, vous ne pourrez pas rester au ministère du Budget.
D'abord, j'aime Tourcoing. J'en profite pour le dire de nouveau, puisque je sais que vous posez la question à chaque fois. Donc, j'aime Tourcoing.
Vous ne serez pas candidat à Paris, autrement dit.
Non, ça, je peux vous avoir un scoop. Je ne suis pas candidat à Paris, ni dans un de ces arrondissements, d'ailleurs, même si j'aime Paris par ailleurs. Je préfère Tourcoing. Et quand je serai candidat, vous savez quoi? Ce sont les Tourcoinois qui vont le savoir. Et j'ai jusqu'à début février pour dire si je suis tête de liste ou pas.
Mais vous pourriez défendre le budget jusqu'à décembre et puis après vous dire, ma nouvelle vie, elle sera élective.
Il me semble que, d'abord, je ne conçois pas la vie politique sans être élu local. Mmh. Il me semble que la légitimité du politique, c'est l'élection. Et j'encourage chacune et chacun à aller devant les électeurs parce que je pense que c'est une question très importante de respect démocratique. Et j'ai jusqu'à début février pour déposer ma candidature, si je le souhaite,
enfin, vous serez candidat à Tourcoing. Ça, c'est sûr, vous l'avez dit.
En numéro 1, en numéro 2, en numéro 3, en numéro 4, on verra bien. Et je ne suis pas sûr que ça intéresse beaucoup les auditeurs d'RTL au mois de juillet.
Qui nous écoutent, on est très écoutés.
J'espère bien. Et on fera une spéciale tourcainoise avec M. Cali
dans cette région.
Exactement, mais il le faut. Et vous avez bien de la chance parce que les gens du Nord sont des gens formidables.
Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin, Gérald Darmanin.
Et l'entretien est à retrouver sur le site rtl.fr.